Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et comme à l'habitude, je suis accompagné de M. Guy Barrette. Bonjour Guy.
Hey, salut Mario, comment va le confinement?
Ça se passe plutôt bien.
Oui.
Ben oui, écoute, tu sais, c'est sûr que c'est plate d'être confiné, là. Il y a des choses plus gaies dans la vie, là, mais par rapport à d'autres drames qui peuvent arriver dans la vie, là, on n'est pas, tu sais, moi, j'ai personne dans ma famille qui est malade ou rien de ça. Donc, tu sais, faut quand même apprécier ce qu'on a, là. Dans l'histoire de l'humanité, on a connu pire que ce qu'on vit, là. C'est sûr que c'est un choc, là, l'économie est sur le cul, comme, mais, c'est dans la mesure où est-ce que... Bon, c'est sûr que pour les gens, malheureusement, qui ont des gens dans leur famille qui ont été touchés, qui ont décédé, là, ça, c'est des vrais drames. Mais moi, je suis dans les chanceux.
Oui, puis il y a des gens là qui ont perdu leur emploi. Ceux qui avaient des emplois un petit peu plus précaires, mais là, ils arrivent pas, là, tout simplement. Là, ils sont obligés d'aller aux banques alimentaires, même si le gouvernement est... quand même fait, provincial et fédéral font des gros efforts, là. C'est pas des périodes faciles pour beaucoup de gens, là.
Mais si on compare, mettons, si les gens font beaucoup de comparaisons avec, tu sais, la crise de 1929, ben, en 1929, le gouvernement avait pas commencé à dire, OK, on va vous donner, comme là, dans notre cas, nous, au Canada, ils donnent à peu près l'équivalent de 500 $ par semaine, donc 2000 $ ce qui permet de bien manger. Là, à l'époque, en 1929, les gens n'étaient même pas capables de manger.
C'était pas
juste qu'ils perdaient leur emploi, c'est que c'était, tu sais, quand t'es pas capable de nourrir, c'est dramatique, là.
Absolument.
Bon, je dis pas que c'est simple puis c'est facile pour les gens qui ont perdu leur emploi, là. Et je compatis avec eux, mais c'est pour l'instant, il faut rester positif parce que l'économie va repartir, puis on va retrouver nos emplois. C'est sûr que le monde ne sera plus jamais pareil. Ça va avoir des changements sur la façon qu'on travaille, mais...
Ah, c'est sûr, c'est absolument sûr.
On va s'adapter, puis...
Ben oui, en fait, moi, je peux te donner l'exemple. Moi, je donnais des formations en personne, non live, dans une salle avec les étudiants physiquement présents dans la salle. Donc, moi, j'ai complètement viré mon offre là, pour offrir mes formations en virtuel. Là. Donc, il a fallu que je me revire dans 48 heures. Là, puis, pouf, on passe en virtuel, on achète un green screen, on achète l'éclairage, on achète le micro-casque, tout le kit. Là, puis, bon, ben, on est prêts, là.
Juste par curiosité, tu utilises quelle techno pour faire tes formations?
En fait, j'ai commencé avec Zoom, qui marche très, 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 très bien. Sauf que je vais passer à Teams parce que Zoom a tellement eu mauvaise presse. J'ai peur que j'ai des clients là, qui veulent tout simplement pas utiliser Zoom parce que Zoom est banni là, dans plusieurs grandes entreprises. Mm-hmm. Donc, c'est pas parce que ça fonctionne pas bien, là. C'est juste que on passe à quelque chose qui est peut-être un petit peu plus meilleur, qui a meilleure presse, plus de sécurité, là, tout ça. Là.
C'est sûr qu'il y avait des trous de sécurité, mais je pense que le plus gros enjeu de sécurité, c'est le fait que c'est le fait que le URL, les gens pouvaient le partager. Donc souvent, c'était la sécurité venait plus comme souvent.
En fait, le principal problème de sécurité au niveau de Zoom, c'était les utilisateurs qui ne savaient pas réellement s'en servir. Puis monsieur, madame, tout le monde, au lieu de commencer à regarder c'est quoi les settings, il y a des dizaines de settings, là, puis tu veux juste parler à ma tante Alberte, là, fait que tu te connectes rapidement, puis tu regardes pas, puis écoute, j'ai même lu des articles où il y a des commissions scolaires aux États-Unis qui postaient le URL et le mot de passe sur des pages publiques, là, pour se brancher aux formations. C'est sûr qu'écoute, c'est comme... j'arrête là.
Parce que...
Mais anyway, mes formations, ça marche super bien en virtuel. C'est quand même... c'est une adaptation pour rendre le tout convivial puis aussi interactif, mais ça marche quand même bien. Fait que j'en ai fait quelques-unes. La semaine dernière, j'avais un groupe d'Edmonton, un groupe de 7 personnes d'une de l'Institut d'une polytechnique là-bas à Edmonton.
Mm-hmm.
Puis ça a bien été. Aujourd'hui, j'en ai une autre. Puis c'est ça, j'en ai plein d'affichés. Là, donc, juste aller sur kubernetes.ac.
Puis là, moi, je suis juste curieux parce que je sais qu'au gouvernement du Québec a annoncé même des programmes de subvention pour les entreprises là, qui veulent former leurs employés, profiter du fait qu'on peut moins travailler pour dire bon, on va faire quand même de la formation. Toi, tu sais, est-ce que tes formations deviendraient éligibles?
En fait, si je regarde un petit peu le programme, le gouvernement va payer à 100% le salaire des employés qui suivent les formations. Donc, par exemple, c'est une formation de 3 jours. Les 3 jours vont être payés par le gouvernement et aussi les frais d'inscription aux formations à 100%. Donc, c'est comme un win-win là. Pendant 3 jours, tes employés sont, en fait, le salaire des employés est remboursé et l'inscription. Donc, c'est à la charge de l'entreprise de faire des démarches pour pouvoir remplir les formulaires puis se faire rembourser là les formations, mais moi ça rentrait. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu d'informations, c'est PACME, PACME.info. C'est un petit site là que j'ai créé là où on affiche les informations là de base, puis on redirige là, vers la page du gouvernement là, pour plus d'informations. Fait que c'est une bonne occasion de se former à 0$.
Donc c'est PACME.info.
Ouais, exact.
OK. Ben écoute, ce serait bien qu'on commence peut-être l'entrevue avec notre invité. Avec nous, on a Luc Labelle.
Bonjour. Okay, salut Luc.
Salut, ça va?
Et toi?
Yes, yes.
Donc, juste pour nos auditeurs, là, on n'est pas les trois en personne. Là. Ça fait depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années qu'on fait des enregistrements à distance avec la technologie Zencastr. Donc, Luc est chez lui, Guy, toi, j'étais chez toi, puis moi, je suis à ma maison. Donc, il n'y a personne là, ici qui se rencontre et qui s'échange des virus. On fait tout ça à distance. Puis d'ailleurs, certains, peut-être nos auditeurs, s'en étaient rendus compte parce que des fois, vu qu'on se voit pas, c'est difficile de pas, quand on se parle, de vraiment pas embarquer sur la parole de l'autre. Donc, on s'arrange pour essayer de bien faire le mixage, mais des fois, c'est un peu plus ardu. Luc, on veut parler avec toi de Power Apps. Puis, bon, la formule, c'est toujours la même. Hein? Il y a l'entrevue à proprement parler, mais nos auditeurs doivent se dire, mais c'est qui ça, Luc Labelle? S'ils sont au Québec, ça se peut qu'il y ait eu la chance déjà de te rencontrer, mais certains de nos auditeurs en France doivent se dire, bon, encore un autre Québécois. Parce que toi, tu demeures à Montréal.
Oui, effectivement.
Et puis, t'es bien connu, je dirais, de la communauté autour de Office 365, SharePoint, parce que c'est ton domaine d'expertise?
Oui, en fait, ça fait quand même plusieurs années que je suis impliqué dans la communauté, surtout à Montréal. Pendant un bon moment, là, j'étais impliqué dans la communauté SharePoint de Montréal, mm-hmm. Dans le groupe d'utilisateurs. Puis, il y a 2 ans passés, j'ai commencé mon user group sur la Power Platform. Je fais encore évidemment beaucoup de contenu sur SharePoint. Mais principalement les conférences là depuis les deux trois dernières années là, ça tourne toujours autour de la Power Platform.
Ça fait quelques années là que tu reçois la récompense MVP de Microsoft justement dans le domaine d'expertise. C'est Office 365 cette expertise là, ou je sais pas.
Non, moi j'ai un parcours un peu louche là d'un point de vue MVP. Initialement, ça fait 4 ans en fait là que je suis MVP. Le premier MVP que j'ai eu, il a été SharePoint,
mm-hmm.
qui a été transformé dans les mois suivants en Office Service and Services.
Mm-hmm.
Puis j'ai été ensuite renouvelé très très brièvement sous Data Platform parce que je faisais beaucoup beaucoup de Power BI à ce moment-là.
Ouais.
Puis ça a été retransformé en Business Applications, qui contient aussi surtout Dynamics.
Uh-huh.
Puis là, ils sont en train de revoir encore ce Business Apps parce que ça, dans le fond, moi, je me ramasse à avoir une reconnaissance pour Business Applications. 95% des gens qui ont du Business App viennent de Dynamics, puis ma connaissance de Dynamics est relativement basse, là, pour ne pas dire inexistante. Donc, moi, j'arrive vraiment de la plateforme SharePoint, puis de la plateforme SharePoint, j'ai bâti par-dessus cette plateforme-là avec Power Apps, Power BI, puis Power Automate. Donc, je suis un petit peu à part, là, dans le pattern, là, si on veut. Donc, en tout cas, ils sont en train de revoir ces reconnaissances-là, puis ils vont
Ce qui est intéressant, c'est que ça montre un petit peu l'évolution rapide là, de tous ces produits-là. Là. Il y a comme vu que c'est ils sont obligés de rechanger les awards là, MVP là, dans ces différentes catégories-là, ça montre que ça grouille, là, ça bouillonne beaucoup, là.
Oui, effectivement. Il y a eu beaucoup de changements. Moi, je me rappelle là, les premières conférences que j'ai faites sur la Power Platform. À ce moment-là, on disait même pas Power Platform, il y avait juste Power BI. Ça doit faire un 3 ans et demi, 4 ans. Là, je pourrais valider la date de ça exact. Mais ça fait quand même un bon moment de ça. Puis je me rappelle à ce moment-là, Power BI était à peine un produit qui était sérieux, là. Puis souvent, là, je faisais rire de moi dans mes conférences parce que les gens disaient, ouais, c'est pas un vrai produit, ça marchera jamais. Puis moi, j'arrivais aussi de toute la communauté SharePoint, donc ça faisait depuis des années qu'on avait un produit qui était quand même relativement mature, relativement efficace, relativement déployé partout, en fait. Puis là, je passais dans quelque chose qui était un petit peu pas connu encore, qui était quand même pas mal nouveau comme produit, qui avait pas fait sa réputation encore. Donc, je me rappelle, les gens dans mes premières sessions disaient, oh, ça va-tu vraiment marcher, ça, pour BI? Ça va-tu vraiment pogner? Mais moi, depuis le début, je voyais le potentiel, là, clairement, là, quand j'ai commencé à travailler avec ça. Puis, de fil en aiguille, ben, j'ai passé de Power Apps à de Power BI vers Power Automate, puis aussi ensuite de ça vers Power Apps.
Et puis, tu travailles pour quelle entreprise?
En fait, j'ai fondé mon entreprise il y a 5 ans. En fait, ça a fait 5 ans au mois de ouh, au mois d'octobre. Donc, ouais, j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Cabessa. On fait de la consultation sur l'intégration en fait de Office 365 globalement. Donc, de la stratégie de déploiement, des cadres de gouvernance, des modèles opérationnels, jusqu'à la réalisation là, puis la mise en place, mettons, d'un intranet ou de plateforme de gestion documentaire directement dans SharePoint. Puis j'ai commencé une pratique Power Platform il y a à peu près une année de ça, 8 mois. J'ai engagé un directeur technique pour cet aspect-là, puis on essaie de développer vraiment cette offre de service-là plus Power Platform. Puis on a aussi une bonne plusieurs formations qu'on offre autour de la Power Platform, surtout là, donc Power BI, Power Apps, puis Power Automate. On a des formations qui sont autour de ça. Donc globalement, on fait du consulting à plusieurs niveaux, donc au niveau stratégique, tactique, puis opérationnel, mais aussi on fait de la formation puis de l'accompagnement dans la gestion de changement.
Mais écoute, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de la plateforme Power.
Oui.
Allons-y. Donc, peut-être à 30 000 pieds d'altitude, qu'est-ce que c'est ça, le fameux Power Apps? Tu as dit aussi Power BI,
Ouais.
Power Automate, puis je sais pas, Automate, c'est ce qui s'appelait avant Microsoft Flow. Peut-être juste positionner tous ces produits-là, c'est quoi le problème que Microsoft cherche à résoudre là, avec ça?
Selon moi, c'était pas tant un problème qu'on cherchait à résoudre plus qu'une stratégie de positionnement de leur produit Office 365. Je pense que ce qui est arrivé, ma perception, hein, personne ne me dit ça, c'est vraiment une opinion personnelle, là. Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'au fil du temps, ils se sont rendus compte que l'adoption des produits dans les organisations se faisait surtout par les utilisateurs, les super utilisateurs. Donc, c'est en fait eux qui poussaient l'adoption des produits puis des technologies dans l'organisation. Mais pendant longtemps, ce qui arrivait, c'est que les technos rentraient par TI. Puis TI faisait la distribution de ces technologies-là dans l'organisation, ce qui faisait qu'il y avait un ralentissement au niveau de l'adoption de certains des produits. Donc, Microsoft, je pense, l'angle qu'ils ont pris pour ces produits-là, c'est essayer de répondre des problèmes directement à ce niveau-là. C'est sûr et certain que derrière, il y a une valeur qui est ajoutée pour l'entreprise parce qu'on a des utilisateurs qui connaissent très, très bien leur processus d'affaires, qui veulent en fait résoudre des problèmes en lien avec ces processus d'affaires-là, puis on leur donne une technologie qui est quand même relativement simple pour eux de comprendre puis de maîtriser, qui leur permet en fait d'atteindre cet objectif-là. Mais en gros, je pense que vraiment l'idée derrière cette série de produits-là, c'est de générer une adoption encore plus rapide d'Office 365 globalement, en passant un peu à côté de TI qui a tendance à mettre à fermer les valves là, quand on déploie les produits.
C'est drôle, je t'écoute, Luc, puis ça me fait penser au même dilemme ou au même défi qu'il y avait dans les années 80 quand l'ordinateur personnel est apparu. Moi, je me souviens, j'avais été embauché comme étudiant à l'époque, c'était pour chez Bell Canada. Puis chez Bell Canada, ben toute informatique à l'époque, c'était les gens qui contrôlaient les fameux ordinateurs centraux, donc un peu l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on appellerait les TI, puis qui était vraiment pas très agile, ça prenait du temps. Donc quand les autres demandaient, ah, on voudrait avoir une application pour faire ça, on leur disait, ouais, on va la budgétiser, puis vous allez l'avoir dans 12 exact. Mois, dans 18 mois. Puis ce qu'eux avaient fait, ils s'étaient acheté quelques PC, puis ils avaient pris quelques jeunes étudiants comme nous. Puis c'était comme bon, ben faites-nous donc des applications. Dans mon cas, moi, écoutez, moi je faisais des scripts, avec Lotus 1-2-3 là. Puis mais moi je trouvais ça le fun comme job d'été là. Donc, mais eux c'était pour résoudre des vrais problèmes concrets qu'il y avait sur le terrain. Puis c'est comme ça que le PC est rentré dans l'industrie. Puis le parallèle que je vois, c'est qu'aujourd'hui Office 365, c'est du cloud. Puis ce que Microsoft voit, c'est que peut-être pour faire entrer beaucoup de solutions pour résoudre des problèmes, ben c'est plus rapide que si c'est l'utilisateur direct qui lui-même fait sa petite solution, par exemple avec Automate pour automatiser un transfert de fichiers, une conversion, puis là le fichier est renvoyé à un autre endroit. Là. Donc c'est ce genre de solution-là qu'on parle. Là.
Oui, effectivement. Puis moi, je trouve de tous les produits qu'on a là dans plateforme O365, probablement la Power Platform, c'est une des c'est la série d'outils qui est la plus proche là, du vision statement de Microsoft, là, qui dit en fait que autres, leur vision, c'est vraiment de rendre chacune des personnes autonome en termes de capacité de résolution de problèmes en utilisant la technologie. Donc, ils veulent pas que ça soit un gros processus de publication, de mise en production, de tests. Ils veulent vraiment que tout le monde dans toutes les entreprises soit en mesure eux-mêmes de résoudre des problèmes d'affaires. Puis, la Power Platform, elle s'attache très, 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 très bien à ce vision statement-là.
Est-ce qu'on peut énumérer chacun des produits de la plateforme Power, justement, puis en expliquant un peu chaque produit, c'est quoi que ça offre comme capacité?
Oui. Le premier produit qui a été livré avec la Power Platform, dans ce moment-là, ça n'existait pas vraiment, là, la Power Platform, mais le premier Power produit, sauf PowerPoint, c'était Power BI. Donc, Power BI a comme objectif de permettre aux organisations de regarder en fait leur productivité, de valider leur productivité, de sortir des métriques sur leur profitabilité, de sortir des métriques sur la manière dont ils font les choses, puis de créer des rapports, en fait, de créer du contenu analytique, puis de publier ce contenu analytique-là dans l'organisation. Une des grosses différences de Power BI par rapport aux autres produits, c'est que l'audience qu'on vise avec ce produit-là, c'est le super utilisateur. Donc, on veut que le super utilisateur soit capable lui-même de se connecter à une ou des sources de données, transformer ces sources de données-là, créer des modèles de données de simple à complexe, créer du contenu analytique par-dessus ce modèle de données-là, puis le publier, puis le partager dans l'organisation relativement simplement.
C'est de répondre au bon défi qui est comme, tu sais, j'ai des données, mais je veux avoir des rapports, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans mon organisation, puis demander les rapports justement au groupe TI, c'est compliqué, tandis c'est que impossible. Si je suis capable de moi-même créer mes rapports, ça va aller vite.
Effectivement. Donc, Power BI, c'est vraiment le vertical avec lequel ça va venir donner un coup de main dans l'organisation. Power Apps fait exactement la même chose, mais pas en développement de contenu analytique, en développement applicatif. Donc, on a la même audience, la même stratégie de déploiement, un cadre de gouvernance qui est quand même relativement comparable. Puis l'objectif de Power Apps, c'est de permettre aux gens de pouvoir eux-mêmes, ou les super utilisateurs, de pouvoir eux-mêmes développer des applications relativement simples en se connectant à des données qu'ils ont déjà, puis en le faisant interagir ensemble. Donc, on peut se connecter à plusieurs sources de données dans une même application, faire un croisement de ces différentes sources de données-là quand même relativement simplement, puis bâtir une interface graphique publier cette application-là puis la partager rapidement pour les autres personnes dans l'organisation. Donc, on peut facilement là, voir une personne qui se débrouille en informatique, là, je sais pas, qui est comptable, bâtir une application qui va lui permettre de créer des clients dans un système de gestion de clients qui est stocké, mettons, dans une base de données SQL ou SharePoint ou même dans un fichier Excel. Donc, vraiment, c'est la même audience, mais le problème qu'on tente de résoudre n'est pas de l'analytique, c'est du développement applicatif.
Mm-hmm. C'est souvent ce qu'on va appeler les fameuses applications qui sont du form over data en anglais, là, donc des formulaires pour être capable de remplir des données qu'on va après ça stocker dans des bases de données. Donc, c'est de la création de formulaires de saisie de données souvent.
Ben, en fait, à la base, ça a parti comme ça. Mais ça a rapidement évolué, là. Donc il y a vraiment deux modèles applicatifs, là. Je pourrais peut-être revenir sur ça plus tard, puis mm-hmm. terminer sur les différents morceaux. Ouais, exactement. Donc pour compléter en fait la question, quelles sont les composantes de la Power Platform, il m'en restait deux. Il y a un autre composant qui s'appelle Power Automate, puis l'objectif de Power Automate, c'est de permettre de digitaliser certains processus d'affaires, d'automatiser certains processus d'affaires, que ce soit de l'approbation de contenu ou un processus complexe qui doit être digitalisé, on va être capable de faire ça avec Power Automate. Encore une fois, ce qu'on vise comme audience, c'est les super utilisateurs, c'est les utilisateurs dans l'entreprise. Donc, on a encore une fois une stratégie de déploiement qui est quand même comparable aux deux autres produits. C'est pas pareil parce qu'on n'a pas, c'est pas exactement le même produit, mais c'est quand même comparable en termes de vision ou en termes de framework, je devrais dire, pour ce qui est de la stratégie de déploiement. Puis le dernier qu'on a, qui vient juste de sortir, qui s'appelle Power Virtual Agent. A comme objectif de fournir aux utilisateurs, encore une fois la même audience, super utilisateurs, une interface simple qui leur permet de construire des bots. Donc, rapidement, un utilisateur peut dire, OK, je vais construire un bot qui va me permettre de répondre à 5 questions simples. Quand j'ai une personne qui vient sur mon site web, je voudrais que les 5 questions suivantes soient prises en charge par ce bot-là avec les différents scénarios là, qui viennent autour de ces questions-là.
Donc, les bots que tu parles, là, c'est souvent ce qu'on voit quand on va sur un site web. Là, ouais. Une petite face qui apparaît dans un coin, puis on nous pose la question, avez-vous besoin d'aide? Ça, ouais. C'est un bot. Là, c'est un ouais. agent virtuel pour t'aider à dans ton site web.
Effectivement. Ça, c'est tout attaché, en fait, derrière aux Cognitive Services puis à différents services Azure derrière. Donc, ils ont juste ajouté, en fait, une partie. Moi, j'aime ça dire du sugar coating. Ils ont ajouté du sugar coating par-dessus des services qui existent depuis un bon moment déjà. Là. La capacité de créer des bots, ça fait longtemps qu'on l'a. C'est juste qu'elle n'a jamais été livrée dans les mains du super utilisateur. Puis Power Virtual Agent, c'est ça. C'est comme la partie sugar coating de ces fonctionnalités-là qu'on met dans les mains de l'utilisateur. Ça lui permet en fait lui-même de créer ses propres bots, là, sans comprendre toute l'architecture qui est nécessaire en arrière dans Azure. Ça couvre pour le moment les 4 différents verticaux qu'on a avec la Power Platform. Là.
Ce qui est intéressant quand tu mentionnes ces produits-là, c'est que chacun des produits est destiné non pas à des informaticiens de 20 ans d'expérience qui vont monter des systèmes, mais vraiment à des un petit peu comme le nom de la plateforme PowerD ou Power Users.
Ah, clairement, 100%. En fait, je trouve que c'est un statement à deux tranchants de dire ça. Parce que initialement, quand Microsoft a sorti avec la Power Platform, surtout avec Power BI, c'est ce qu'il disait. L'outil s'adresse à des super utilisateurs seulement. Mais c'est plus le cas maintenant. Power BI, c'est un outil robuste d'entreprise qu'on peut utiliser pour notre stratégie BI. Là, c'est plus juste comme un petit outil de dashboarding. Là. Si on peut construire des modèles tabulaires relativement complexes là-dedans, quand même relativement gros, l'architecture derrière qui nous permet d'asseoir ces modèles-là a grandement changé depuis les derniers années, puis c'est en constante évolution. Donc, ce statement-là, il reste quand même vrai. C'est pas faux de dire que les outils s'adressent aux super utilisateurs. Sauf que de plus en plus, ils s'adressent aux super utilisateurs et experts en TI, experts en BI, experts en développement, experts en automatisation de processus, experts en AI, experts en machine learning. De plus en plus, on va incorporer ils vont intégrer des fonctionnalités dans ces produits-là qui vont venir en fait chercher le reste de cette masse d'utilisateurs-là.
Derrière ce besoin-là de satisfaire correctement les fameux power users, je crois qu'il y a la reconnaissance par Microsoft du besoin que de rendre beaucoup plus facile. Là, on la mettra en guillemets, mais ce qu'on appellerait de la programmation haut niveau, c'est-à-dire tout un mouvement en anglais qui appelle ça le no-code, ou donc la programmation sans code,
ouais.
Mais qui vit justement les gens qui s'identifient pas comme des programmeurs, mais qui vont à quelque part faire des programmes. Donc, quand on parle, si on récapitule, de Power BI, ça te permet de faire des rapports, de pouvoir modéliser des schémas de données. Power Apps, c'est faire justement des formulaires, encore là, des bases de données. Automate, c'est automatiser des workflows, donc automatiser des flux de travail. Puis le Virtual Agent, c'est de te faire des petits robots pour automatiser justement des questions-réponses sur le web. On parle de programmation, mais programmation sans vraiment code, là. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je dirais en partie oui, en partie non. Donc, comme je disais, le produit à la base couvre un spectre qui est de plus en plus large. Donc, initialement, quand on disait on peut faire quelque chose avec ou peu ou pas de code, peu ou pas de code, c'était vrai. C'est encore le cas. Mais c'est pas vrai qu'on va développer des scénarios d'intégration de données, d'ingestion de données, de transformation de données sans code. C'est la réalité dans la vie, là, c'est quand on va chez le client puis qu'il nous donne un schéma, un jeu de données sources, là, des données transactionnelles qui sont tout croche, c'est impossible de faire un beau petit rapport tout fancy en 3 minutes. Là. Le processus d'ingestion de données il reste quand même complexe. Donc, c'est sûr que l'outil te permet, si tu t'attaches à une source de données qui est relativement simple, de rapidement aller chercher de la valeur dans quelque chose. Donc, je vais te donner un autre exemple. Mettons, on prend par exemple Power Apps. Je veux créer un formulaire personnalisé dans SharePoint. Ce que ça me prend comme connaissance pour transformer un formulaire SharePoint en une application Power Apps ou un formulaire personnalisé avec un peu de logique d'affaires, c'est pas grand-chose. C'est effectivement vrai. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est un low-code, no-code strategy, au sens que facilement un super utilisateur avec un peu de formation puis d'encadrement va être capable de prendre ça en charge. Mais ça veut pas dire que je suis pas capable d'implémenter des trucs qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus robustes.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut entrevoir que l'évolution de l'informatique, on va se retrouver un peu comme avec deux catégories de programmeurs, des programmeurs qui vont travailler avec des Power Apps, donc très proches des clients, très proches du domaine métier, leur savoir-faire va être plus associé au domaine métier que même les grosses connaissances en programmation. Donc, une catégorie de programmeurs de ce type-là, puis la catégorie des programmeurs plus classiques là, qu'on connaît, c'est-à-dire les gens qui font du code du côté back-end ou qui font des gros la partie algorithme. Est-ce qu'on doit entrevoir un peu ces deux catégories de programmeurs-là?
Moi, je pense que oui. En fait, dans l'état actuel des choses, on a vraiment fait deux catégories là, dans lesquelles on dit des super utilisateurs vont dans Power Apps ou vont dans Power BI et les développeurs qui font du vrai dev là, avec Visual Studio, ce qu'on appelle un vrai développeur, quelqu'un qui peut coder dans n'importe quel langage, va faire les composantes beaucoup plus complexes de notre architecture dans notre solution. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va se rendre en clientèle, le client va dire « Moi, j'ai besoin de prendre telle donnée, les mettre à tel endroit, créer un tableau de bord, automatiser des processus, puis bâtir 6 applications mobiles pour mettre ça dans les poches de mes différentes audiences. » En réalité, ça se peut très bien qu'il y ait des composants dans cette architecture-là qui ne vont pas faire partie de la Power Platform. On va les sortir à l'extérieur de ça. On va faire des API ou des services web ou ce genre de choses-là. Donc, on va sortir, dans certains cas, une partie de la complexité de la Power Platform. Puis, effectivement, dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui a vraiment une expertise comme développeur qui va prendre en charge cet aspect-là. C'est pas vrai qu'on peut demander à une personne qui travaille aux finances d'aller coder un custom connector pour se connecter à une source de données qui est sur un système legacy là, qui traîne, c'est impossible. T'sais. On peut pas s'attendre à ce que cette audience-là est ce niveau de connaissance technique-là, ce niveau de compréhension technique-là, la capacité de résoudre un problème aussi complexe que ça d'un point de vue technique. C'est impossible.
C'est pas le métier de la personne.
Effectivement. C'est pas son métier, puis probablement ça l'intéresse pas non plus. Tu sais, la personne, si elle a voulu travailler en informatique, ben elle aurait probablement fait ce choix-là quand elle étudie. C'est pas son travail. Donc, c'est sûr et certain. La seule chose que moi, encore là, ça reste une opinion qui est très, très personnelle, c'est que dans l'état actuel des choses, les professionnels en TI, comme nous, ont tendance à être réticents à utiliser ces environnements-là pour développer une application. Donc, quelqu'un qui est un développeur un peu réduit, qui fait du .NET depuis des années, si je lui offre l'opportunité de développer une application en .NET ou en Power Apps, c'est sûr qu'il va prendre .NET. Pourtant, s'il ouvrait l'opportunité, s'il ouvrait la porte de Power Apps, il se rendrait compte que potentiellement, il diminuerait son temps de développement considérablement. Son Application Lifecycle Management serait beaucoup plus simple. La manière d'opérationnaliser ça serait beaucoup plus simple. Il y a certains avantages dans certains cas à travailler avec un outil qui est plus... je veux pas dire moins complet parce que ça double tranche comme France, mais qui est moins complexe. Dans certains cas, il y a des avantages à le faire, même si techniquement, on est capable de faire quelque chose qui est beaucoup plus compliqué.
Peut-être aussi que le développeur plus classique, lui, devrait plus se focusser sur, justement, publier des API REST vers la logique métier, les données métiers. On va donner un exemple. Mais imaginons... On veut pas que les gens qui utilisent Power Apps se mettent en silo à refaire 25 bases de données des clients qu'on a dans l'organisation. Parce que là, un coup qu'un client va nous appeler pour dire « je voudrais changer mon adresse », on veut pas avoir 25 endroits où on change d'adresse. Donc, peut-être que le groupe TI devrait focusser en disant « nous, on va fournir des API REST pour gérer les clients ». Et après ça, avec Power Apps, les gens vont venir se connecter puis prendre ces données-là parce que la notion de connecteur, c'est un peu là-dessus que qu'on devrait focusser dans le futur au niveau des groupes TI, c'est créer des connecteurs pour que Power Apps puisse aisément venir consommer et mettre à jour ces données-là. Est-ce que je me trompe?
Comme je dis, dans le fond, c'est une opinion, c'est une opinion très personnelle. C'est que pour moi, dans le meilleur des mondes, tu sais, moi, je suis dans le fond, j'ai eu plusieurs jobs. J'ai été développeur, j'ai fait du C, du C++, du Visual Basic. Tu sais, j'ai été codeur pendant des années. Mm-hmm. Je fais moins de code depuis plusieurs années parce que j'avais passé à SharePoint, j'étais plus un intégrateur. Mais pour moi, dans le meilleur des mondes, qu'on soit un développeur ou qu'on soit un super utilisateur dans l'organisation, c'est de prendre toute le stack d'outils qu'on a de disponible, choisir celui qui fait le plus de sens en fonction du contexte. Donc, ça se peut que je sois un développeur aguerri, que je fais ça depuis 25 ans ou peu importe, puis je suis un ninja dans ma techno, sauf que ça veut pas dire que dans certains cas, je ne dois pas utiliser Power Apps, même si c'est une technologie qui est considérée comme étant plus simple à utiliser. Donc, pour moi, c'est juste un outil de plus que le développeur plus classique ajoute, en fait, à sa capacité de livraison. C'est pas les développeurs font juste du back-end puis les super utilisateurs font juste du front-end. Je pense que les utilisateurs vont se limiter probablement à leur capacité technique là, qui va se situer dans Power Apps probablement, mais ça veut pas dire qu'un développeur classique peut pas dire « Écoute, attends, moi, je vais regarder ça, comment ça fonctionne Power Apps. »
C'est intéressant ce que tu dis, Luc, parce que pour un développeur, le développeur peut regarder ça puis lever le nez sur une technologie comme ça, puis la façon de le voir, c'est « Hey, voilà un autre outil dans ma boîte à outils. » si j'ai tel type de demande, au lieu de commencer à coder de A à Z quelque chose qui va me prendre peut-être un mois de travail, écoute, si j'utilise ça, ça pourrait peut-être me prendre, trois, quatre, cinq jours. Mettons 25% là, du temps de développement. Écoute, pour moi, c'est génial. Puis j'aurais de l'air champion là vis-à-vis de mes patrons puis de mon client là qui me demande de créer ce type d'application là. Donc si on le voit comme un outil dans notre boîte à outils de développeur, ben là, je pense que c'est de la façon de le voir.
Parce que si, mettons, tu prends un utilisateur ligne d'affaires, je prends Power Apps, je le mets ça dans ses mains. Mettons qu'il n'a jamais vu d'environnement de développement de sa vie, là, ça y prend quand même un certain temps à comprendre le concept de développement. Tu sais, on met une valeur dans une variable. Cette variable-là va être impactée par ce contexte-là, par ce contexte-là. Quand je clique là-dessus, il y a un événement qui se déclenche. Cet événement-là va avoir un impact sur tel contexte. C'est pour eux, là, c'est pas très, très clair. Mais pour nous autres qui fait du développement depuis des années, ça prend 8 secondes à prendre ça, là. Fait que si tu prends Power Apps, tu mets ça des mains d'un dev, avant la fin de la journée, il a fait le tour, je pense.
Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Mettons qu'on voudrait faire une application Power Apps, là. Mm-hmm. C'est quoi qu'il faut? Est-ce que ça prend quelque chose dans notre environnement, sur notre poste de travail? Comment ça fonctionne?
Okay. Grosso modo, moi, dans le fond, les requis de base que j'ai quand je commence avec un projet, là, puis j'ai quelqu'un qui veut digitaliser, mettons, un formulaire ou quelque chose comme ça, ma première question, c'est est-ce que vous avez déjà Office 365? s'ils ont déjà Office 365 et qu'ils payent déjà pour Power Apps puis Power Automate, pour moi, c'est un no-brainer. Je vais tout de suite là-dedans. À moins que le développement de l'application demande quelque chose de relativement complexe, là, c'est sûr que ça peut peut-être aller vers une application de type plus classique, là, si on peut dire. Mais sinon, pour moi, là, c'est ça mes questions de base. Grosso modo, comment ça se passe, les phases de développement, c'est les personnes vont nous expliquer leurs besoins standard, là, ils vont nous dire ce qu'ils veulent faire. Puis la première étape qu'on fait dans Power Apps, je vais juste en fait spécifier quelque chose, c'est que on peut arriver de deux endroits pour Power Apps. On peut arriver de Dynamics ou on peut arriver de n'importe où ailleurs au monde. Si on arrive de Dynamics, l'angle avec lequel on va résoudre les problèmes n'est pas du tout le même que si on arrive de n'importe où ailleurs au monde. Quand on arrive de Dynamics, on arrive d'un schéma de données qui s'appelle le Common Data Model, qui est en fait livré par un service qui s'appelle le Common Data Service. La façon d'interagir avec ces entités-là, avec ce back-end-là, est pas nécessairement pareille à, mettons, SQL ou une SharePoint ou une autre structure de données. Donc, dans Power Apps, principalement, il y a trois grosses catégories d'applications. La première catégorie d'application, c'est ce qu'on appelle des Canvas Applications. Dans ce contexte-là, c'est ce que nous, on a tendance à ce qu'on est plus familier avec, au sens qu'on a besoin de développer une interface graphique qui intègre une certaine logique d'affaires pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec du contenu à l'extérieur. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle du Model-Driven Application. C'est une application de type pilotée par le modèle de données, ce qui veut dire qu'en fait, dans certains cas, la logique d'affaires est dans le modèle de données. Je vais te donner un exemple. Si je dois appliquer un rabais pour une vente sur un type de produit, quand la vente dépasse 5 000 $, je peux facilement implémenter cette règle d'affaires-là dans mon modèle, dans mon back-end. Ce qui est souvent le cas quand on arrive avec le Common Data Model. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser un modèle de données qui respecte les règles d'affaires, puis par-dessus ce modèle de données-là, on va bâtir une application. Et l'application n'est pas nécessairement aussi flexible d'un point de vue interface. Donc, c'est pas l'interface qui drive l'application, c'est le modèle qui drive l'application.
Donc, à partir du modèle, là, ils vont créer des interfaces pour créer des données, éditer des données, supprimer des données, puis appliquer les règles de métier sont à partir du metadata qui est dans le modèle.
C'est ça. Donc, c'est un petit peu différent. Puis les gens qui arrivent de Dynamics sont beaucoup plus familiers avec ce modèle d'application-là. Mais depuis les derniers mois, c'est sûr qu'ils se sont familiers aussi avec Canvas Application, donc ils sont aussi familiers avec ça. Mais eux, ils arrivent vraiment avec cet angle-là dans le développement applicatif.
Mais ça va très, très vite faire des écrans à ce moment-là. Puis les écrans, est-ce qu'on parle d'applications qui roulent juste sur Windows 10 ou on parle d'applications qui vont rouler autant sur un téléphone Android, un téléphone iOS, une page web? Est-ce que ça nous donne aussi la flexibilité d'être multiplateforme?
Dans le fond, les applications qui sont livrées dans Power Apps, quand on crée une application pour la livrer dans Power Apps, sont à base web-based.
OK.
C'est une application qu'on publie dans un service qui s'appelle Power Apps. Puis à l'intérieur de ce service-là, il y a les applications qu'on a publiées. Ou on peut aussi les publier dans Dynamics. Ça, c'est un peu mêlant encore, là, c'est pas encore clair, cette démarcation-là. Là. Il y a comme un portail applicatif d'entreprise dans Dynamics dans lequel on peut aller chercher les applications qui ont été créées. Mais grosso modo, les applications sont publiées dans un service web. Puis on peut consommer ces applications-là à partir d'un laptop, n'importe où, ou à partir d'un appareil mobile en installant l'application mobile Power Apps. Donc, si tu vas sur ton téléphone, tu installes l'application mobile Power Apps, un peu comme pour Power BI, tu installes cette application-là sur ton téléphone, puis l'application, elle, va te servir de point d'ancrage pour toutes les applications qui ont été livrées dans ton environnement, autrement dit, dans ton organisation. Donc, okay. Quand tu ouvres l'application mobile, tu vois toutes les apps qui ont été partagées avec toi. Mais c'est pas l'application tech client, tu n'installes pas ça sur ton poste de travail.
Donc, à la base, c'est des applications web, donc des single page applications que tu vas pouvoir à ce moment-là consommer à partir d'une page web. Puis là, ben si tu veux les consommer sur un téléphone, ben tu peux aller directement sur la page web, mais Microsoft te fournit aussi une application où est-ce que là tu vas retrouver toutes les icônes pour accéder justement à ces fameuses pages web-là de façon plus conviviale.
Oui, mais en fait, quand tu l'accèdes de l'application web, tu n'accèdes pas nécessairement à des pages web. Il load directement, il charge directement l'application sur ton appareil mobile. Fait que c'est vraiment comme voilà. Vas-y.
Ben, c'était juste pour éviter, justement, parce que si c'est sur un téléphone, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te crées un raccourci pour aller vers la page web, en faire un, puis là, mettre une icône dans ton, sur ton téléphone. Là, il évite ça. Donc, t'as juste à downloader leur application. Tu cliques sur l'application, puis là, tu vois toutes les différents types de formulaires qu'on a, d'applications qui ont pu être créées avec Power Apps.
Ouais.
Puis tes accès des aimants.
Effectivement. Donc, puis la troisième partie qui a été livrée il y a pas trop longtemps, c'est Portals, Power App Portals, qui permet en fait de créer un site web qui peut être public ou en partie public, puis en partie qui demande une authentification. Je vais te donner un exemple concret de ça. Là, on travaille avec des clients qui ont un dossier qui ce type de d'application-là est beaucoup plus proche de ce qu'ils ont besoin de faire pour résoudre le problème. Là. Donc, eux, ils ont besoin de communiquer de l'information publique. Pour une partie, mais ils ont besoin aussi que les gens puissent se connecter sur cette plateforme-là et qu'il y ait leur propre profil à l'intérieur. Donc, une fois qu'ils sont connectés, qu'ils voient les formulaires qu'ils ont soumis, qu'ils soient capables de remplir un formulaire, de faire une demande d'approbation, de soumettre ça, puis que là, on capture ça, en fait, avec Power Automate, puis qu'on valide, en fait, qu'on digitalise, en fait, le processus d'approbation, etc., etc. Donc, ça, c'est un troisième type d'application qui peut être livré par Power Apps, qui est en fait créé par l'interface Power Apps, puis qui est disponible à partir du service Power Apps. Puis ça, c'est livré plus comme un site web, par contre. C'est pas comme une application mobile.
OK. Est-ce que les sites web qui créent, est-ce que ils sont dynamiquement, ils s'adaptent quand tu le regardes d'un téléphone mobile versus d'un gros écran sur un PC?
Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Même les applications qu'on fait dans Power Apps aussi, au début, quand ils ont sorti les apps, on n'avait pas le concept adaptivité. Là. C'est quoi le terme exact pour ça? Responsive, merci beaucoup. On n'avait pas le concept de responsiveness, mais ils ont intégré dans ça. En toute franchise, pour le moment, je peux pas te dire que c'est 10 sur 10, mais c'est quand même pas mal du tout. Là. C'est pas mal respectable, en fait, en termes de fonctionnalité. Là. Le responsiveness, même si tu développes une application, mettons, pas portail, mettons, je développe une application Power App standard, Canvas App, puis que je la consomme, mettons, à partir d'un poste de travail, puis si je prends mon écran, puis je la diminue ou j'agrandis mon browser, je peux configurer pour l'application qu'elle soit réceptive, en fait, à ce changement-là, puis qu'elle s'adapte, en fait, dans mesure du possible, qu'elle s'adapte à la grosseur de l'écran qui reste. Puis ça fonctionne, effectivement.
C'est ça, parce qu'en entreprise, souvent, les gens veulent consommer ça, ils sont dans leur taxi avec leur téléphone, ils peuvent commencer à faire de quoi, ils arrivent à leur bureau, là, ils partent leur PC, ils peuvent reprendre la même application, puis là, tout d'un coup, ils vont voir un écran de 27 pouces devant eux, donc là, ils vont avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'il y avait sur leur téléphone, puis dynamiquement, ouais. L'application, c'est juste resaisé en fonction du type de device que tu utilises, là.
Ouais. Ça, par contre, moi, j'aurais tendance au début dans ma phase d'analyse d'identifier bien mes audiences. Là. Puis, en fonction des audiences que je vais établir, je vais aussi établir les codes d'utilisation de chacune de ces audiences-là, puis bâtir le wireframe en fonction de ces audiences-là. Donc, je sais que si une personne veut utiliser son téléphone, son appareil mobile pour avoir des interactions avec du data, je peux pas y fournir une interface qui est nécessairement pareille comme la personne qui consomme l'interface par l'application web. Donc, comme j'ai beaucoup plus de place sur un laptop, comme j'ai beaucoup plus de place sur un écran, un gros écran, c'est sûr et certain que je vais pas meubler mes formulaires de la même manière que pour un appareil mobile. Ce qui est un peu embêtant ou en même temps intéressant, ça dépend de l'angle avec lequel on le regarde, c'est que on peut, pour une source de données ou pour un même besoin d'affaires, facilement développer plus qu'une application. Donc, je peux avoir une application qui s'adresse à l'audience A, une application qui s'adresse à l'audience B, mais je viens résoudre le même business process en arrière, le même problème d'affaires. Donc, je peux facilement avoir une application mobile qui s'adresse à mon directeur, à mon président, parce que lui, en fait, ses interactions sont quand même limitées, puis que lui, il veut consommer ça sur son téléphone mobile. Donc, je peux développer une application pour lui qui vient lui permettre de résoudre ce problème-là, qui s'adresse vraiment à cette audience-là. Mais la personne qui, elle, a besoin de voir 6 tables puis qu'il y a 50 champs dans chacun des tables, en fait, 50, c'est peut-être beaucoup, là, mais mettons 25 dans chacun des tables. Je peux pas y faire une interface mobile. Là. Cette personne-là ne sera pas trop contente là, avec l'interface que je donne. Donc, je vais créer tout simplement une autre application pour cette fois d'utilisation-là.
Puis là, le scénario que toi, tu nous passes, c'est vraiment plus comme quand on est en train de développer dans le mode Canva. Parce que j'imagine que si tu utilises, si tu viens plus avec le mode model-driven, c'est-à-dire que qui est plus, parce que là, si je comprends bien, là, le Microsoft Power Apps, dans ce cas-ci, Microsoft cherche à solutionner deux types de problèmes avec la Power Platform. C'est-à-dire, offrir de la programmation à toutes leurs solutions qui est plus ERP, c'est-à-dire les fameuses offres de produits Microsoft Dynamics, c'est-à-dire que c'est sûr que quand tu as une plateforme ERP, tu veux souvent l'étendre avec des solutions, puis la façon de faire cette solution-là, ça va être avec justement Power Apps, puis dans ce cas-là, tu vas faire plus des applications model driven. Mais le Power App, comme tu nous expliques, on peut aussi le faire en mode Canva, où est-ce que là, on design nous-mêmes l'interface, puis on associe les sources de données, puis à ce moment-là, tout peut être complètement externe et pas être attaché aux fameuses sources de données qui viennent de Dynamics, qui sont le Common Data Model, ouais. C'est ça? Mais au lieu de te brancher un Common Data Model, tu pourrais te brancher directement sur des bases de données ou sur des interfaces REST, si je comprends bien.
Oui, en fait, on peut se connecter à peu près n'importe quoi. Là. Je pense comme si là, on est rendu à 250 quelques connecteurs, je pense, là, qui sont homologués pour le moment. Là. Puis en fait, si c'est pas homologué, on peut toujours construire notre custom connector. Je veux juste rectifier quelque chose par rapport à Model Driven versus Canvas Application, c'est qu'ils sont vraiment maintenant dans le mode Microsoft d'essayer de faire d'intégrer tout ça. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on n'aura plus deux interfaces, là, une qui était plus model driven, puis l'autre qui était plus Canvas Application. Ils sont vraiment en train de tout rattacher ça dans une seule interface qui va être plus orientée vers ce que nous autres on appelle du Canvas Application. Puis pour ceux qui ont fait du Visual Basic là, pendant des années, là, ben tu sais, Power Apps, c'est pas très, très loin en termes d'interface là, de Visual Basic, là, de ce que Visual Basic était.
On se retrouve avec un peu le même, tu sais, le monde se répète toujours. Moi, je me souviens des années 90, donc il y a presque 30 ans de ça. J'étais un programmeur C++ hardcore. Puis la première fois que j'avais regardé Visual Basic, je regardais ça avec un regard un peu hautain en disant, c'est un jouet, cette bébelle-là. Ouais. On sait que bon, c'était pas tant un jouet que ça parce qu'il y a eu beaucoup d'applications qui ont été développées en Visual Basic. Bon, pour mon bénéfice, c'était quand même Visual Basic 1, Visual Basic 2, donc c'était vraiment des jouets à l'époque. Mais quand est arrivé Visual Basic 3, Visual Basic 4 jusqu'à 6, là, ça a pris vraiment de l'ampleur. Donc aujourd'hui, on parle de Power Apps qui est peut-être plus en version 1, mais c'est inévitable. Là. Ce type de plateforme-là va prendre de plus en plus d'ampleur avec le futur.
Je pense que oui. Selon moi, tu sais, pour moi, dans le meilleur des mondes, il arriverait quelque chose comme ça. L'outil comme puis je trouve qu'ils ont fait un petit peu, selon moi, un petit peu la même erreur avec Power BI. C'est que quand on prend un utilisateur, c'est pas un utilisateur, là, je prends une personne des finances, puis je l'assois devant un outil comme Power BI maintenant, qui est devenu ultra complet, avec lequel je peux faire des trucs ultra complexes. Puis que je lui demande de maîtriser l'entièreté des concepts qu'il y a derrière cet outil-là, c'est impossible. Mais c'est pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Tandis que quand ça a commencé, il y avait, je sais pas, 8 concepts. T'sais. Là, pour elle, c'était facile de se retrouver là-dedans. Puis pour ce qu'elle a besoin de faire, c'est tout à fait raisonnable. C'est que je pense que ce qu'il devrait faire, c'est vraiment faire une version standard, là, ou super utilisateur, puis une version développeur, une version avancée. Là. Puis laisser les gens choisir la version avec laquelle ils veulent travailler, tout simplement. C'est juste que quand on est super utilisateur, on veut toutes les features qui sont avancées, mais quand on est une personne qui veut juste créer des rapports de base, même chose au niveau des applications, c'est pas nécessaire que d'avoir toutes ces fonctionnalités-là. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'ils nous ajoutent dans Power Apps des fonctionnalités ou des concepts de développement que les développeurs on a ou ceux qu'on veut utiliser depuis des années, mais qu'on n'a pas dans Power Apps. Je vais te donner un exemple concret. Tu sais, le concept dans Visual Basic ou dans l'orienté objet, de déclarer une chose une fois, puis quand tu en as besoin, tu l'appelles puis tu y passes un paramètre. Mm-hmm. Et ça n'existe pas là, dans Visual Basic, dans Power Apps. Le concept d'avoir une fonction dans laquelle tu dis je vais te passer un paramètre puis tu vas me retourner une valeur puis je vais la valeur qui m'est retournée je vais m'en servir pour le restant de mon code, ça marche pas de moi.
Ouais.
Donc si tu te répètes ton code là, tu le répètes. Il arrive avec tes components pour le moment qui vient encore là de Dynamics, tu sais, c'est la logique de développement d'objets dans Dynamics. Donc il arrive avec des trucs qui s'appellent des Power Apps components qu'on peut commencer à intégrer dans nos applications, mais tu sais dans Visual Basic là, le segment qu'on appelait le module, là, il me semble que c'est le moment qu'on appelait ça dans lequel on mettait un paquet de code. Là. Bon mais ça là, ça existe pas dans Power Apps pour le moment. Puis pour moi, ça, c'est un gros turn-off parce que je suis obligé de récréer mon code des fois 5, 10, 15, 20 fois dans la même application. Et il fait exactement la même affaire. Ça veut dire que chaque fois que je le modifie, il faut que je le modifie partout. Donc, c'est un peu embêtant pour un vrai dev, tu sais.
Ouais, puis là, la solution aujourd'hui, c'est si tu voudrais vraiment, c'est d'aller du côté d'Azure, puis utiliser du serverless avec des fonctions que tu hébergerais directement sur des serveurs dans Azure. Mais là, ça veut dire un autre service, il faut que tu payes, un autre endroit où il faut que tu déploies, puis là, c'est pas bien intégré. Faut penser que probablement que Microsoft va amener peut-être ce qu'ils ont développé pour faire du serverless dans Azure, à un moment donné, probablement dans l'offre de Power Apps. Ça serait ça qu'il faudrait qu'ils puissent mettre intégrés ensemble.
Ouais. Comme maintenant, je vais te donner un exemple. Supposons que tu as un formulaire pour lequel tu dois respecter certaines règles d'affaires avant que que tu puisses le soumettre. Mais tu veux en fait que le bouton Submit soit disponible sur n'importe quelle page de ton formulaire tant aussi longtemps que les règles d'affaires ont été rencontrées. Donc, dépendamment, tu es rendu où ou dans ton étape d'approbation, là, peu importe sur quel écran tu te trouves, tu veux que le bouton soit actif si toutes les cases ont été remplies à cette étape-là, puis désactivé si toutes les étapes n'ont pas été remplies à cette étape-là. Le bouton Submit, le code derrière ce bouton-là est copié-collé pour chacune des formulaires, chacune des fenêtres que tu as dans ton formulaire.
Oui, le même problème qu'on pouvait avoir quand on faisait du Microsoft Access ou du Visual Basic dans les premières versions, là, c'est-à-dire que ton code n'était pas, tu sais, tu pouvais pas respecter le principe de responsabilité unique, c'est-à-dire j'écris un endroit, puis là, à ce moment-là, tu te retrouves à le dédoubler partout, puis là, c'est compliqué à faire les mises à jour après.
Donc, selon moi, ils devraient garder cette version-là comme ça, mais avoir une fonctionnalité derrière qui dit comme dev features, whatever, là, qui nous permet en fait d'aller chercher ces concepts-là. Parce que quand on commence à parler de ça à un utilisateur, un super utilisateur, là, on va dire, OK, on va isoler ton code à quelque part, puis on va l'appeler, puis on va changer les paramètres. Là, on vient de perdre leur intérêt, puis on vient de perdre leur... C'est pas leur travail, ça les intéresse pas. Ils veulent juste faire un formulaire, digitaliser un formulaire, puis dès qu'on commence à rentrer dans ce niveau de complexité-là, on perd cet utilisateur-là dans le produit. Donc là, moi, dans le meilleur des mondes, c'est, ça serait ça. C'est, je garde les features de base, laisse-moi activer des fonctionnalités développeurs dessus, puis dans ces fonctionnalités-là, laisse-moi utiliser des fonctionnalités de développement applicatif qu'on a l'habitude d'utiliser dans d'autres plateformes.
Mais faut pas oublier que le produit s'appelle Power, justement, parce que ça vise les fameux Power Users, qui, comme tu le dis, sont peut-être pas intéressés tant que ça. Les autres, ils veulent des solutions, puis la maintenance, puis faire que leur code vive, soit facile à maintenir, puis faire évoluer dans le futur, c'est peut-être pas leur préoccupation première. Là. Ils veulent surtout livrer, puis mettre en production quelque chose qui va leur permettre de résoudre leurs problèmes qu'ils ont présentement sur le terrain. Là.
Ouais.
C'est souvent la réalité.
Puis juste une petite question au niveau du licensing, parce que c'est pas un produit que tu achètes là, puis que tu installes sur ton laptop là, pour faire ton développement. Donc j'imagine qu'il y a un licensing par utilisateur ou quelque chose comme ça?
Oui, en fait, le licensing est attaché à encore là deux branches. Il y a différents types de licences. On a les licences qu'on appelle le terme français pour ça, je le connais pas, on dit nested. Donc
nested. Imbriqué.
Merci. Imbriqué. donc, on a imbriqué dans Office 365 ou imbriqué dans Dynamics. Donc, okay. Power Apps et Power Automate, en termes de licence, sont attachés soit à Dynamics, soit à Office 365.
Donc, c'est une option que si tu as choisi, ça te coûte un peu plus cher par mois pour cet utilisateur-là, si je comprends bien.
Non, en fait, ça vient gratuit avec ces produits-là. Donc, si mettons je te ramène un cas, un use case là, qui est quand même assez standard, t'as un client qui sont 100 personnes, 100 employés dans l'organisation. Ils achètent Office 365 pour les 100 employés. Tout le monde a une souscription E3 qui leur est assignée. Donc, ça vient avec SharePoint, ça vient avec Exchange, ça vient avec OneNote, ça vient aussi avec Power Apps, ça vient aussi avec Power Automate. Donc, c'est gratuit. Ça vient avec. Ça te coûte rien de plus que ta souscription Office 365. Sauf que le licensing de la Power Platform n'est pas pareil pour toute la Power Platform. Donc, Power BI a son propre licensing. Power Automate puis Power Apps, ils ont un autre licensing. Pour ce qui est de Power Apps puis Power Automate, comme je disais, tu peux l'avoir nesté dans O365 ou nesté dans Dynamics. Sauf que si tu veux utiliser des connecteurs que Microsoft appelle Premium, ça va te demander des coûts de licence qui sont supplémentaires.
Donc, de manière connecteur,
ouais?
juste pour le bénéfice de nos auditeurs, par connecteur, tu veux dire d'avoir des sources de données, par exemple, dire « Ah, va me chercher mes données dans tel CRM » ou « Va me chercher mes données dans tel produit », parce qu'eux autres, ils ont fait toutes les connexions pour que ça soit facile, que tu sois capable d'aller te connecter avec des produits de d'autres compagnies.
Oui. Donc, mettons, prenons un exemple quand même relativement simple. J'ai besoin de créer un formulaire pour supporter un processus d'inscription à des événements quelconques. Si mes données se situent dans une liste SharePoint, c'est gratuit. Donc, c'est pas gratuit au sens que tu payes pour une licence Office 365, mais avec ta licence Office 365 vient la possibilité pour toi d'utiliser Power Apps et Power Automate sans payer quoi que ce soit parce que tes données se trouvent dans SharePoint. Par contre, si on se connecte, si les données se trouvent en fait dans une base de données SQL, ça c'est considéré comme étant une source de données qui passe par un connecteur qui est premium. Et donc, chacun des utilisateurs, on doit payer une licence supplémentaire pour ce cas-là. Donc, dépendamment où se trouvent les données, on va devoir payer plus ou pas. L'autre aspect, c'est que il y a aussi un autre modèle de licence qui s'appelle par application, par utilisateur. Donc, plutôt que de licencier chacun de mes utilisateurs de manière hypothétique, j'ai 100 utilisateurs dans mon organisation et j'ai une application qui s'adresse à 5 utilisateurs ou 50 utilisateurs. Donc, plutôt que d'acheter une licence pour tout le monde, ce que je pourrais potentiellement faire, c'est d'acheter une licence pour l'app. Ça s'appelle un per app, per user license. Puis, les gens qui vont se connecter à cette application-là vont payer à la personne des frais, mais beaucoup moindres. Donc, je vais payer une licence pour mon application et je vais payer une licence pour chacun des utilisateurs qui consomment cette app-là. Sauf que ça coûte beaucoup moins cher vu que j'ai déjà acheté ma licence pour l'application. Le contre de ce scénario-là, c'est que la personne peut juste se connecter à cette application-là. Dès qu'elle veut consommer une autre app, faut que je la relicencie, j'y ajoute une autre licence pour cette application-là aussi. Donc, c'est un modèle. On paper, ça peut faire du sens. Mais ça s'opérationnalise très mal. Parce qu'en réalité, là, on ne sait pas qui est attaché à telle application. Et donc, technologiquement, je pourrais, mettons, acheter une licence puis mettre tout le monde dans ça. C'est juste que si je me faisais auditer, ben là, ils s'en rendraient bien compte. Ou même dans leur reporting, ils vont voir que je suis pas licencié comme du monde. Mais technologiquement, une fois que la porte est ouverte, là, les gens peuvent rentrer. Donc, ça devient une question d'éthique là, si t'achètes tes licences adéquatement par rapport à ça.
C'est pas simple. Ça prend un PhD là, pour comprendre tout ce licensing. Donc, c'est pour ça qu'on te contacte là, pour si les gens veulent sont intéressés à implémenter ce type de plateforme là, je pense que faire affaire avec un au moins pour setter la partie de la licensing là, je pense que parce que sinon tu peux te retrouver à soit trop dépenser ou peut-être pas dépenser assez, puis si tu fais auditer, ben là c'est là que ça va faire mal.
Effectivement.
Luc, si on a des auditeurs qui sont des développeurs qui disent wow, ça a l'air intéressant cette histoire de Power Apps là.
Oui.
La meilleure place pour démarrer quand on est développeur, c'est il y a sûrement comme de la documentation en ligne qu'on peut aller consulter, puis là, on va nous expliquer comment faire une première application, par exemple, une espèce de Hello World avec Power Apps.
Oui. En fait, il y a 3-4 angles avec lesquels on peut attaquer ce problème-là. Le premier étant de suivre les sessions qu'on fait à notre user group. Donc, ils peuvent toujours venir se joindre à notre communauté. Des fois, les sessions sont quand même assez techniques, là, surtout pour les user group. L'autre truc, ils peuvent s'inscrire à la formation qu'on offre aussi. L'autre truc en ligne, directement sur le site Power Apps, il y a une page, là, quand on se connecte dans Power Apps avec des credentials Office 365, là, on va sur apps, powerapps.com, on se login sur ça, il y a une section du site directement qui dit Guided Learnings ou quelque chose comme ça. Dans ça, il y a des chemins d'apprentissage qui sont quand même relativement pertinents, là, qui sont pas mal du tout quand on démarre, en tout cas. Puis sinon, il y a le site de la communauté Power Apps qui contient pas mal d'informations. Donc, pour moi, quand je fais de la Power Platform, je suis en permanence sur le site docs.microsoft.com pour ce qui est de Power Apps, Power BI et Power Automate. Puis l'autre partie, c'est sur le site de la communauté là, que je vais trouver l'information.
Nous, on va mettre les liens là, sur notre page web. Là, tu pourras nous les fournir gentiment. Yes. Mais Luc, fort intéressant. Je pense que c'est vraiment une technologie. Le monde se répète, hein? Moi, j'ai connu le début de Visual Basic. On a connu après ça le début de la plateforme .NET. Puis là, ben, on voit la nouvelle plateforme qui est la plateforme Power, mais c'est toujours le même défi. C'est fournir des outils que les Power users peuvent utiliser, mais qui souvent finissent aussi par être utilisés par les développeurs, là. Ben, on te remercie bien.
Ben, c'est moi qui
ouais,
vous
merci,
remercie.
Luc.
Écoute, c'est un honneur de faire votre show. J'étais vraiment content d'avoir l'opportunité de faire un peu de jasette avec vous autres.
C'est
vous, gentil.
Donc, d'ici là, nous, on va le souhaiter bonne programmation à nos auditeurs.
Bon confinement.
Oui, bon confinement. On va espérer que tout va aller bien de votre côté. Puis on vous revoit au début du mois de mai pour un autre podcast. À la prochaine.
Merci, au revoir.